l'antenne de Chiz 94.3, vous écoutez Conduite Antisportive. Je suis Charles Leblanc, en compagnie d'Emery Riendo et Victor Marchand, comme à l'habitude. Et aujourd'hui, quelqu'un de très spécial se joint à nous. Emery, je te laisse présenter notre invité.
Yes sir, Charles. Alors aujourd'hui, on reçoit l'émission un étudiant athlète en basketball. Il vient de terminer sa deuxième saison avec le Rouge et Or. Il a remporté le championnat canadien et il a été nommé joueur par excellence au pays. Ismaël Diouf, merci d'être avec nous. Comment ça va?
Merci de me recevoir. Merci, ça va bien et toi?
Yes, ça va super bien, merci. Pour commencer, là, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on célèbre ça, un championnat canadien? J'imagine que ça l'a fêté fort.
Ouais, ben, le soir même, on a quand même fêté fort. On est allé au Shaker. Il y avait même d'autres équipes qui sont venues.
OK.
Sinon, pendant la semaine, on a fait quelques rassemblements. Puis mercredi, on a été à la boîte de nuit. OK. En équipe et tout. On avait un souper avant aussi. Un resto italien, c'était vraiment bon.
Puis j'imagine que ça fait du bien de pouvoir décompresser comme ça après autant de semaines, de mois, à être vraiment dans un mode d'entraînement avec le championnat canadien, que vous le saviez que vous alliez participer parce qu'on le recevait ici à l'Université Laval. Alors ça doit faire du bien de pouvoir souffler un peu.
Ouais, c'est sûr. Depuis juin qu'on pratique là, non-stop chaque semaine. Fait avoir une semaine de break, ça fait vraiment du bien.
Puis c'est quand qu'on recommence l'entraînement par la suite?
Aujourd'hui.
Oh, wow, OK. Excellent.
Puis, mettons, physiquement, tu sais, t'as joué ces trois matchs-là, c'était fou, là. T'as joué 37 minutes, je pense, les trois matchs de suite.
Les deux derniers. Le premier, j'ai moins joué.
OK, mais ça, mais tu sais, ça reste deux matchs de suite que tu joues 37 minutes.
Ouais.
Ça doit être débile sur le corps, là.
Non, mon corps était le dernier match, était vraiment tough sur le corps, là.
Puis j'imagine que la foule a un impact sur à quel point t'es capable de jouer malgré le mal.
100%. Sans la foule, j'aurais même pas toffé.
Ouais,
à partir de du deuxième corps, mon corps était déjà, était déjà brûlé.
Ouais.
Je marchais sur le terrain, on dirait que j'étais une petite brindille. J'étais plus capable de me tenir debout.
Est-ce que ça se pourrait que tu carbures à ça? On regardait tes statistiques au championnat canadien et en saison. Tu as presque doublé dans toutes les catégories. Puis tu as connu aussi du succès au collégial. Est-ce que la foule puis les grands moments ça t'aide à performer?
Ben de qu'est-ce que j'ai vécu dans le fond, je pense que les grands moments ça m'allume un peu, même au collégial ça s'est bien passé, finale nationale, provinciale, puis régionale. Je pense que c'est la foule ou juste les grands moments comme ça, je pense que ça m'allume puis ça...
Ouais, parce que c'est fou là, je dis d'être. Tu sais, je veux dire, t'avais une bonne saison, puis je veux dire, déjà là, il y avait pas de honte à la saison que t'avais eue, puis en plus de prendre le step que t'as pris du grand championnat, tu sais, je pense que tout le monde qui a pu voir ces matchs-là a réalisé à quel point, tu sais, c'était, t'as joué vraiment ton meilleur basket, je pense, à ce moment-là.
Ouais, mais c'est pas fini, là, c'est pas encore le meilleur. Qu'est-ce que j'ai vu? Je regardais les vidéos, c'est pas encore.
Ah ouais, ok, t'espères encore faire mieux dans les prochaines années?
100%.
Ah ouais, ok.
T'as faim encore pour.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des aspects que t'as identifiés que t'aimerais améliorer à ton jeu?
Ben, quelques fois, j'ai fait beaucoup de turnover. Puis peut-être être capable de sprinter plus longtemps parce que des fois, je joguais seulement sur le terrain. Là. C'était pas beau à voir.
Puis comment tu vas faire pour te préparer puis pouvoir être capable justement de courir de façon plus soutenue dans un match?
Ben, ça recommence. J'ai fait ça tantôt, musculation vraiment.
Okay.
Ça va être un gros point pour cet été. Sinon, continuer à travailler sur mon corps et mes skills au niveau basket. Savoir quoi faire sur le terrain, puis à quel moment sprinter puis tout donner.
Excellent. Puis tu sais, tu l'as nommé un peu plus tôt, là, on l'a nommé un peu plus tôt, t'es étudiant en kinésiologie.
Ouais, ouais.
Est-ce que justement les connaissances que tu vas chercher grâce à ton baccalauréat peuvent te servir pour les entraînements?
Ouais, ben au début, c'était vraiment plus du théorique. C'était pas vraiment du concret dans ce que je vis. Mais tu sais, mes cours de nutrition, mes cours d'entraînement, de standardisation, ça m'aide vraiment beaucoup. Comme ça me permet de m'entraîner sans me blesser, puis savoir un peu comment structurer un petit programme pour l'instant. Mais ça va être plus utile rendu plus loin, vu que c'est vraiment de la performance que je veux faire.
Ben, est-ce qu'il y a un peu une communication à ce niveau-là, tu sais, avec les physios et le staff de l'équipe? Est-ce que tu apportes du sien aussi, justement, dans ton entraînement?
Non, pas encore. On a des kinésiologues vraiment, vraiment compétents, puis des physios aussi, mais je suis pas encore rendu au point. Je suis juste encore ma deuxième année, puis en allégé, fait que c'est pas un point fort pour moi encore.
Pas encore pour le moment.
Mais tu sais, on parlait de ça, puis Emily, on en parlait tantôt. Tu sais, c'est fou parce qu'on passe ça souvent pendant les émissions, à quel point tu sais, le monde à Laval, puis le monde n'importe où, à n'importe quelle université, tu sais, il faut que tu concilies études, travail, sport. Tu sais, t'as probablement un appart parce que tu viens pas de Québec, tu sais, dans le sens que t'as tellement d'affaires à gérer. Comment tu fais pour être capable de, tu sais, d'exceller dans tout ça, d'avoir une vie sociale, de pouvoir justement t'améliorer au basket, de vouloir justement aller à un plus haut niveau? Est-ce que tu as-tu une technique, t'as-tu la motivation qui fait que t'es capable de tout concilier ça?
Ben, je pense que j'excelle même pas temps ça à 100%. C'est difficile, puis il va toujours avoir un aspect de la vie que tu vas devoir comme négliger.
Ouais, ouais.
Moi, je travaille un peu moins.
Ouais.
J'ai la chance d'avoir une petite bourse ou quoi que ce soit, mais je travaille quand même, surtout l'été, parce que c'est là que je peux commencer à ramasser puis économiser pour l'année au complet. Mais c'est vraiment l'organisation, fait, savoir qu'est-ce que tu dois faire, quand t'entraîner, les bons moments, agencer tout ça avec les pratiques puis les cours. Fait que je pense que c'est l'organisation le plus important.
Puis est-ce que le Rouge et Or vous aide là-dedans, justement, dans cette planification-là de votre vie en dehors du basketball?
Mais je sais qu'il y a des ressources pour aider, mais moi, je pense je les utilise pas tant. J'ai pas connaissance nécessairement, mais je sais qu'il y en a.
Okay. Fait que t'as comme une discipline personnelle qui te permet de pouvoir faire un peu de tout en même temps.
Je fais ça depuis cégep que je m'organise, puis je fais mon horaire, j'ai des rappels. Puis
est-ce qu'au cégep, t'étais chez tes parents ou t'étais déjà à l'extérieur?
Okay. Ouais, chez mes parents. Fait que j'ai un peu moins de trucs à faire.
Mais là, présentement, t'es en appartement, j'imagine. Okay.
Ouais. Fait qu'aller chercher l'épicerie, puis
faire ta nourriture.
C'est un autre monde.
Ouais. Après les pratiques, à 8h, là, il faut que tu reviennes chez toi, tu te laves.
Ouais.
Puis après, ça, tu te fasses à manger. Les soirées sont longues. Pas le temps d'étudier après.
Puis, côté motivation, je relance un peu là-dedans, mais c'est dur dans le sport d'aller chercher des back-to-back, d'aller faire deux années vraiment excellentes de suite dans n'importe quel sport. T'sais, la motivation était clairement là cette année parce que tu avais le championnat canadien qui s'en venait, tu savais que c'était à Québec, tu savais que ça allait être à l'Université Laval. Mais est-ce que justement, est-ce que vous avez déjà commencé à parler de ça, de comment vous motiver pour vous battre pour l'année prochaine, avoir le même niveau? Parce que tu sais, vous étiez négligé, je pense, pour une grande partie des gens. Mais là, tu sais, vous allez clairement avoir un peu plus une cible dans le dos dès l'année prochaine. Est-ce que ça commence à jaser un peu de comment vous motiver, comment vous faites pour vous dire, OK, l'année prochaine, on va être encore meilleur, on va faire telle affaire de plus?
Peut-être pas encore, oui, ça fait une semaine. Mais on va vraiment mettre plus d'enfants sur la musculation. Okay. Parce qu'on a eu vraiment beaucoup de blessures cette année, comme Seydou, Brandon. Même moi, j'ai une commotion. Ouais. C'est des trucs que j'aurais pas nécessairement, mais tu sais, qui peuvent être évités. Fait vraiment aller plus en muscu pour toute l'équipe. On recommence déjà cette semaine, cinq jours semaine. On va aller s'entraîner avec notre préparateur physique.
Mm-hmm. Puis par rapport à ça, est-ce que vous sentez que vous avez une pression? T'sais, même, il est probablement tôt pour le dire, mais sentez-vous que vous allez avoir une pression l'an prochain de dire « Nous sommes les champions, tout le monde nous a vu aller, genre tout le monde sait de quoi on est capable. » Penses-tu que ça peut vous jouer dans la tête pour commencer la saison, par exemple, d'avoir des attentes? Ça va-tu créer des attentes, en fait?
Ben c'est sûr qu'on va avoir une cible dans le dos. Là. Comme déjà, les autres équipes étaient déjà pas nécessairement contentes qu'on ait accès aux championnats canadiens. J'ai vu les commentaires, puis... Pourquoi les huitièmes sont... Ben, comme les hosts ont droit d'avoir accès avec une fiche de 6-10.
Puis à qu'est-ce que tu répondrais à cette question-là?
Ben, honnêtement, c'est pas qu'on l'a mérité d'aller là-bas. Genre, on aurait aimé ça passer par la grande porte, mais on a eu quand même beaucoup de blessures, puis on a eu de la misère à se développer. Mm-hmm. Mais t'sais, on est arrivé là, puis on a joué quand même contre la meilleure équipe au pays. La quatrième, puis la deuxième.
Mm-hmm.
Je pense qu'on a prouvé qu'on savait jouer, là.
Moi, j'ai une question justement par rapport au tournoi. Qu'est-ce qui a expliqué que, tu sais, en saison, ça a été un peu plus compliqué? Quatre matchs qui se finissent par trois points. C'était souvent au quatrième quart là, que vous échappiez les matchs. Mais au championnat canadien, vous avez été de loin la meilleure équipe dans les moments importants. C'était quoi la différence entre saison régulière et championnat canadien?
Je pense qu'on a appris la saison régulière. Puis on a su pas faire les mêmes erreurs. Puis on a eu de l'expérience avec les games de 3 points puis les games de 2 points. Fait que je pense que c'est à cause de cette saison-là qu'on a pu closer les games.
Est-ce que la foule, ça vous aide aussi dans ces moments-là? Tu t'en parlais, là, t'étais 100%. Épuisé. T'avais-tu déjà vécu une atmosphère semblable?
Jamais. J'ai déjà eu quand même des grosses foules, puis dans des gymnases un peu plus petits, c'était bruyant. Mais avoir 3200 personnes qui crient ton nom, c'est incroyable.
Non, puis c'était fou, puis t'sais... Tu le gardes ça, puis honnêtement, tu sais, je le suis, le Rougeur, depuis longtemps, puis dans n'importe quel sport, tu sais, c'est ce qui rendait ça encore plus incroyable, puis pour l'avoir vécu un peu à l'intérieur, c'est que, tu sais, on est arrivé au début du championnat en disant, tu sais, qu'est-ce qui va arriver avec cette équipe-là, tu sais, clairement, t'arrives pas en tant que numéro un, les billets se vendent un peu moins bien pour les deux dernières parties, où est-ce que Laval, on savait pas si Laval allait être là pour le samedi, le dimanche, puis de voir justement ça, tu sais, la mentalité du monde de Québec, qu'on a vu, c'était fou là, de voir à quel point les gens sont déplacés. Je sais pas si vous l'avez vécu, vous, dans vos familles ou dans vos proches, mais moi, comment je le voyais avec des amis qui m'écrivaient, Laval est encore là, genre Laval va peut-être se rendre en finale, qu'est-ce qui se passe? Et j'imagine que pour vous aussi, d'avoir toutes ces réponses-là d'amis, de famille, de proches, de collègues qui viennent vous écrire le samedi matin, même le dimanche matin, probablement, pour vous dire comment vous gérez ça? Est-ce que vous avez regardé ça? T'as-tu checké tes textos? T'avais-tu mille textos?
J'ai eu des messages après, mais jamais comme « Ah, on pensait pas te rendre là, mais que vous allez vous rendre là, mais je m'en doutais. » Même moi, je pensais pas qu'on allait gagner.
Ouais, mais c'est ça, j'ai checké un peu ta tournée médiatique, si on peut appeler ça comme ça, là. Puis t'as été assez vocal sur tes doutes un peu à l'approche du tournoi. Puis j'ai déjà vécu ça, un match de championnat provincial, où est-ce que, si je suis honnête, je pensais pas qu'on allait gagner. Ouais. Mais tu sais, une fois sur le terrain... Écoute, t'es là, tu donnes tout ce que t'as, puis on avait remporté, puis vous avez remporté le championnat canadien alors que presque personne croyait en vous. Comment tu fais pour te préparer à un match que t'as certains doutes, mais tu veux le jouer quand même? Là?
Mais c'est sûr qu'on était vraiment, vraiment prêts pour Vice. On avait passé une ou deux semaines vraiment intenses à regarder des vidéos sur Diego, puis savoir comment leur play, puis un peu comment ils fonctionnaient. Fait que je pense que la préparation a vraiment aidé pour le match, puis c'est sûr qu'on n'avait rien à perdre. Fait que...
Est-ce que ça vous a donné confiance de sortir les premiers au Canada pour le reste du tournoi?
Ah, 100%. 100%. Même là, c'est sûr que je croyais comme, peut-être un peu la chance. je sais pas, mais... Non, mais contre Dalhousie aussi, c'était... J'avais peur, là, mettons. Je voulais pas avoir une bonne game après ça. C'était juste une bonne game, c'est de la chance, fait que...
Je pense que vous l'avez entendu, les gars du Rougeur qui ont fait une tournée des médias, là, tout le monde vous l'a dit, on croyait pas tant. T'sais, moi, toute l'année, à chaque émission, on faisait des prédictions, puis je disais, non, les Rougeurs, ils ont du talent, ils vont se replacer, je vous ai donné une chance, finalement, ça, t'sais, vous l'échappiez, puis là, au championnat canadien, j'ai dit à Victor, écoute, je pense que là, c'est contre les premiers au Canada.
Surtout qu'on avait perdu en RSEQ.
Je me dis, j'y crois à cette équipe-là, mais je pense que là, ça va être trop, puis finalement, vous m'avez fait mentir, puis je suis super heureux. Mais est-ce que, j'ai perdu ma pensée.
Veux-tu y aller?
Oui, vas-y, Victor. Je vais penser à ce que j'avais en tête. Je me suis emporté sur la victoire historique.
Non, mais j'allais dire, justement, par rapport à ça, est-ce que... Parce qu'on a vu des gars, Jaden a joué pas beaucoup durant la saison, puis tu le vois arriver durant le championnat canadien. Il joue genre 29 minutes par match.
27 minutes pour les trois matchs.
Puis tu sais, t'as Willem qui a joué pas mal aussi, mais tu sais, qui a eu un plus gros rôle rendu au championnat canadien. Tu sais, j'imagine que ça faisait partie de la stratégie, mais à quel point, tu sais, ces gars-là, puis tu sais, ça passe pour toute l'équipe, mais comment vous faites pour vous dire, OK, tu sais, là, on rentre dans un moment où est-ce qu'on va tout plus jouer, où est-ce qu'on va tout avoir plus de rôle? Puis pour ces gars-là, j'imagine que c'est un travail d'équipe, mais ça reste des gars qui se retrouvent dans une position où est-ce qu'ils s'attendaient probablement pas à être. Je veux dire, comment ça se passe? C'est que vous vous êtes dit, OK, il y a telle affaire ou telle affaire qu'on a vu dans Diego Mafia, OK, ça se peut que Jaden soit meilleur pour le défendre, c'est ça?
Ouais, c'est pour ça. Ouais, on a dit, tu sais, Jaden, il est quick, il est un bon defender, c'est un stopper, puis moi, j'étais surpris de savoir à quel point c'est un bon scoreur aussi.
Ah, ouais.
Mais tu sais, on l'a vu en pratique quelques fois, mais là, il est vraiment step up. Ouais. Sa shot aussi.
Ah ouais.
C'était fou.
Son shot dans le dernier match de l'autre bout du monde, c'est fou. Là.
Et de l'autre bout, c'est vraiment des belles shots, puis il est capable.
Ouais, mais moi, ce que je disais justement au gars, c'est ce que j'ai vu, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais vous avez été une équipe durant ce tournoi-là qui est restée dans cette même mentalité-là de dire, OK, on a un plan de match, puis on va le suivre, peu importe ce qui arrive. Puis j'imagine que c'est un peu ça, dans le sens que vous saviez où est-ce que vous alliez, vous savez qu'est-ce que vous vouliez faire avec ça. Vous avez réussi à le faire, puis tu sais, est-ce que justement le fait d'avoir eu des moments plus difficiles dans la saison, d'avoir eu des moments où est-ce que j'imagine vous avez probablement douté un peu de où est-ce que vous en alliez, de vous trouver des fois par 7, par 8 dans ces matchs-là au championnat canadien, j'imagine que d'avoir eu ces moments-là un peu plus tough, ça vous aide après ça à vous dire, OK, par 7 dans un match comme ça, on a déjà vécu ça, on est capable de remonter ça. Là.
Moi, je savais même pas qu'on était par 7. j'avais pas regardé ce score. Moi, dans ma tête, je voulais juste jouer une belle defense, scorer si ça allait.
Ouais.
Mais non, c'est sûr qu'on a vraiment été préparés pendant la saison. Les pratiques aussi, on a été mindés, préparés, on a fait du cadre, du vidéo.
C'était comment l'ambiance dans l'équipe avec des défaites un peu crève-cœur ou décevantes? C'était comment tout au long de la saison?
Ah, c'est sûr que ça affectait un peu le moral des gars. Comme pourquoi on pratique? Pourquoi on a tellement de talent? Qu'est-ce qui se passe? C'est sûr qu'on s'est remis en question maintes et maintes fois. Mais ouais, c'était pas tant.
Puis vous avez fait comment pour garder le cap dans ces moments plus difficiles-là? Est-ce qu'il y a des joueurs, par exemple, qui se sont particulièrement illustrés pour garder l'équipe vers le haut?
Ben, c'est sûr qu'il y a des leaders positifs dans l'équipe. Là. Comme Sidney nous a vraiment aidés là-dedans.
Mm-hmm.
Sinon, c'est vraiment comme par nous-mêmes. Puis à force de pratiquer, tu sais, après une défaite, on pratique. Après, si la pratique se passe bien, là, on reprend confiance. Puis là, on est prêt pour le prochain match. Fait que c'est vraiment au fil des pratiques, ça aide.
Tantôt, je m'étais perdu, mais je m'en allais pour dire que Dalhousie m'avait beaucoup impressionné. Là, quand ils ont, je ne sais pas si vous avez vu le match, ils ont passé sur le corps de Brock.
Non,
je pas regardé. Non, mais c'était pas sérieux.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Juste après votre match, mais tu sais, le match que vous avez joué contre Victoria m'avait donné confiance, mais Dalhousie me faisait peur un peu aussi. Fait que j'avais hâte de voir le match. Est-ce que vous aviez des plans de match différents pour chaque équipe, comme Victoria, Dalhousie et Queens?
Ah oui, 100%. Le contre Vikes, on voulait vraiment empêcher Diego de scorer le plus possible, puis créer pour les autres. Puis maintenir le 2, parce que le 2, c'est vraiment legit un professionnel. Il est vraiment bon, ce joueur-là. Puis j'ai regardé vraiment, vraiment beaucoup de vidéos pour savoir comment le contenir. Fait que je suis content qu'on a gagné. Contre Dalhousie, c'était empêcher de shooter, parce que c'est vraiment une équipe de shooters.
Malcolm Christie, ouais, Malcolm impressionnant. Christie,
c'est incroyable comment il shoot. Il est vraiment bon, puis c'était vraiment de maintenir... le limiter en tant que shooter, puis le laisser créer avec le dribble. Sinon, pour Queens, j'ai un petit blanc.
Queens, tu sais, j'étais pas dans votre vestiaire, mais c'était une équipe qui était assez imposante dans la clé. Peut-être tirait moins que dans l'Ozzy, mais.
Fort physiquement, ouais, aussi.
C'est un peu gros comme joueur. Vraiment beaucoup, beaucoup de talent, mais un peu plus structuré. Puis, tu sais, il y avait des joueurs professionnels, tu sais, Cole Silas qui joue Seabill aussi, puis son frère qui est vraiment bon, qui a gagné Defensive Player of the Year.
Ouais.
Fait que je pense que, tu sais, on avait comme des match-ups pareils pour chaque position.
Okay.
Moi, je serais curieux de savoir, tu sais, pendant le championnat, tu sais, c'est super rapide, ça se passe sur 3 jours, puis tu sais pas quand tu gagnes nécessairement qui t'affronte le lendemain, parce que l'équipe, le match peut être après toi. Justement, votre entraîneur entre la demi-finale puis la finale, il a affirmé en entrevue qu'il avait dormi seulement une demi-heure se préparer. Vous, c'était quoi vos journées? Est-ce que vous faisiez beaucoup de vidéos? Est-ce que vous passiez plus de temps pour vous reposer? C'était comment que ça se passait au courant de ces journées-là?
Après la première game, on a fait du recovery direct après la game. Fait un petit peu de vélo, faire des bains de glace, se stretch.
Okay.
Après ça, on retourne à l'hôtel, on prend le temps de dormir comme il faut. Mais on a déjeuné tout le lendemain quand même, parce qu'on allait shoot, puis aller voir, on allait regarder les vidéos que le coach avait préparées, puis aller shooter. Après ça, on revenait. On pouvait faire du vidéo par nous-mêmes, mais les gars faisaient quelques devoirs, comme moi je faisais des devoirs, ou je faisais même du vidéo, j'avais pas le choix parce que j'avais des exemples.
C'est en pleine mi-session en plus.
Ouais. Wow, tu faisais des devoirs pendant ta fin de semaine du championnat canadien?
Un peu, parce que j'avais un truc à remettre le dimanche, mais ça a été, je l'ai fait rapidement maintenant.
je suis sûr d'apprendre ça. Vos professeurs vous donnent pas, je sais pas, une dérogation pour
Okay. C'est pour ça, mais c'est un truc qu'il fallait remettre comme ça faisait longtemps qu'on s'en
avait. Okay, je comprends.
Je l'avais avancé, mais il fallait que je termine.
Je comprends.
J'allais dire justement, tu sais, tu parlais justement de devoirs et tout, puis tu parlais justement que t'avais fait une commo durant l'année, t'as manqué, je pense, 3 matchs, là, je sais pas bien.
Ouais, 3 matchs de saison.
Est-ce que, tu sais, comment, côté motivation, mais aussi, je sais pas si ça t'a impacté sur l'école, mais est-ce que, tu sais, c'est un coup au moral, j'imagine, d'être blessé comme ça?
Ouais, c'était pas facile.
C'était pas facile, mais comment tu fais pour revenir, puis arriver à le dire, OK, je vais revenir au même niveau que j'étais, voire meilleur? Est-ce que, tu sais, est-ce que t'as pu continuer à faire quelques affaires ou t'étais vraiment complètement fini pour 2-3 semaines ou ça?
Non, après ma commo, c'était pendant les fêtes.
Ouais,
fait que j'avais pas été en école, mais j'essayais de m'entraîner pareil, comme musculation. Courir, ça faisait pas tant. Je shootais, je faisais plus que je pouvais sans contact. Sinon, c'est sûr qu'en revenant à l'école, je l'ai trouvé un peu plus tough.
Ouais.
Parce que là, me concentrer pendant 3 heures, j'ai pas trippé, mais non. T'sais, ça m'a impacté un peu moralement, parce que voir tout le temps les gars pratiquer, puis moi, je déteste ça être sur la
glace.
Je déteste ça. Fait que ça m'a un peu mis dans un petit down. Mais ça, t'sais, ça remontait assez vite. Je suis revenu quand même, t'sais, 4-5 semaines à peu près.
Ouais, c'est ça, oui.
Fait que j'ai reçu un peu reprendre mes minutes, puis pratiquer comme du monde dès que je suis arrivé. Fait que je me suis maintenu actif avec la muscu.
Puis si c'est pas un secret, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Comment tu as subi ta commotion cérébrale?
C'était un match hors concours au tournoi des fêtes.
OK.
Puis c'était contre Saint-Effix. Jouais une bonne game.
Okay.
En fait, je l'ai terminé aussi. Mais après un rebond offensif de Harris, je pense. J'allais au rebond, mais je me suis retourné pour aller sprinter vers en transition. Mm-hmm. Puis il y avait un gars devant moi, puis j'ai carrément éclaté la tête sur son épaule.
Ouais. Puis est-ce que tu as gardé certaines craintes par rapport à ça? Parce que moi, je connais des joueurs, par exemple, qui des fois ils ont subi une commotion cérébrale, puis après ça, ils deviennent plus craintifs. Toi, est-ce que tu...
Au début, puis quand je shootais ou je prenais des rebonds, j'avais... Comme tout le monde shootait en même temps, je voulais pas recevoir un bas à la tête, puis ça repart. Là.
C'est certain. On reste plus fragile aussi par après. Là.
Ouais. Mais non, j'ai pas... mettons, pendant les matchs, j'avais aucune crainte. Là. Je pensais zéro.
En tout cas, la dernière fin de semaine, tu jouais pas comme un joueur créatif.
Tu parlais des matchs en concours, ça m'a fait penser. Vous aviez perdu contre Queens en début de saison, en octobre, je pense, par 30 points, c'est ça. Ouais. À quel point, est-ce que c'est quoi que... Qui a été mentionné dans le vestiaire avant le match, quelque chose que vous aviez pensé ou c'était vraiment de quoi que vous avez fait, ok, on laisse faire ça, puis on est une nouvelle équipe, c'est une équipe complètement nouvelle elle aussi, puis genre on joue notre match comme si on les connaissait pas, ou le fait d'avoir perdu, ça vous a dit, ok, on a perdu par 30, on peut pas se refaire planter comme ça, ou...
Un peu des deux. Moi, j'y ai pas repensé par 30, un peu, mais c'est pas plus que ça. Je sais que des gars, peut-être ça pouvait les motiver, ouais. Mais moi, j'ai pensé que c'est une nouvelle équipe.
Ouais.
T'sais, on s'est fait éclater, mais... Là, c'est les nationales.
Ouais.
On n'a pas le choix de performer. En fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. On n'avait pas le choix de jouer.
Merci.
Maintenant, Ismaël, j'aimerais que tu me parles un peu de tes coéquipiers. Tu l'as mentionné un peu tantôt, le Sydney qui était un leader. Il a dit que c'était 95% certain que c'était sa dernière saison.
Un petit 5%.
Ouais, c'est ça.
C'est pas ce que ça veut dire, mais on espère.
Ouais, tu sais. Est-ce qu'il y avait un peu aussi ce sentiment de jouer pour sa dernière saison, ses derniers matchs au Peps, tout au long de la saison et au championnat canadien?
Ouais, ouais. Puis il a super bien joué. Il n'en a pas fait trop. Il a fait des belles passes, des belles assises. Fait je pense qu'il a joué. Pour lui. Il a juste joué le meilleur basket qu'il pouvait jouer.
Puis, c'est ça, tu sais, c'est le mot que j'utilise depuis quelques semaines, parce que j'en ai pas trouvé de meilleur, mais je trouvais que, tu sais, il arrive d'une saison où est-ce qu'il était l'MVP dans la RSEQ. Cette année, il y a des joueurs qui prennent plus leur place, peut-être, mais tu sais, il a pas connu la même saison. Peut-être que pendant la saison régulière, il essaie d'en faire trop de, tu sais, en tout cas, on sait pas, mais j'ai trouvé que pendant le championnat canadien, tu sais, a joué un rôle super important. Là, sur la feuille de pointage, c'était peut-être pas lui qui se démarquait le plus, mais j'avais l'impression qu'il jouait avec le même swagger qu'on connaît à Sydney. Je sais pas si c'est ce que je veux dire,
je suis
mais il tire un 3 points, sa main reste dans les airs.
Il avait du fun.
Ouais, exactement.
Ah, vraiment du fun.
Est-ce que c'était-tu contagieux, ça, pour le reste de l'équipe?
Ça. Moi, je voyais avoir du plaisir puis encourager la foule, puis là, ça me donnait une petite bouffée d'énergie, là, je trouve.
Mais c'est vrai, justement, Sydney jouait beaucoup avec la foule, demandait de faire du bruit. J'imagine que ça vous encourageait aussi à faire un peu la même chose, c'est de vouloir.
Ouais, mais ça, c'est son move. Je vais le laisser. Je vais le laisser pour cette année. L'année d'après, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Okay. Je vais le laisser pour Sydney, ça.
Sinon, aussi, avec Harris dans la clé, ça faisait, tu sais, on l'a vu au championnat canadien, vous étiez un excellent duo. Est-ce que tu trouvais que, tu sais, je pense que c'est le gars qui prend le plus de rebonds au Canada par match cette saison. Est-ce que ça t'aidait? T'sais, est-ce qu'il faisait un peu, la gratte là, dans la clé pour te permettre, toi qui es un joueur peut-être un peu plus athlétique?
Ben, je pense que les deux, on se complémentait bien. Comme les deux, je pense que les matchs, on faisait 13 rebonds chaque.
Ouais.
Fait que je pense qu'il est plus physique que moi, mais je suis capable d'aller chercher plus haut. Fait que moi, je tasse les gars, lui aussi, les tasses. Fait qu'on était vraiment un bon complément. Puis on savait se trouver aussi pour jouer. Fait que c'était vraiment comme une bonne complicité.
Ouais, ça s'est vu sur le terrain. Puis aussi, comme j'ai vraiment été impressionné de Steve. Tout au long de la saison, je trouvais que c'était un de vos meilleurs joueurs. Mais encore plus au championnat canadien, je pense qu'il a joué 37 minutes, je pense, les trois matchs.
Exactement, ouais.
Puis, tu sais, c'était les plus gros matchs probablement de sa carrière. Je l'ai pas vu stresser une fois, tu sais, super calme, rentré des lancers qui étaient, tu sais, clutch, comme on dit. On a parlé que Sid, tu sais, était contagieux pour l'équipe. Est-ce que le calme de Steve aussi, là, ça vous a aidé à rester sur vos pieds pendant les matchs?
J'ai pas tant gardé le calme de Steve. J'étais plus dans le moment, mais oui, pour certains, ça peut aider 100% son calme. Mais il est vraiment bon, là. Comme il est capable de faire des trucs que personne n'est capable de faire.
Ah, c'est fou.
Puis il voit des choses, puis il a vraiment un bon IQ basketball.
Puis pendant le dernier match, à un moment donné, il était sur le sol, il avait l'air d'avoir mal à la jambe. Ouais. Ça a été l'homme qui se relève. Moi, je me rappelle, dans les gradins, j'avais peur. Ouais, après ça, il a quitté le terrain, il est parti avec les thérapeutes, il a enlevé son soulier. J'étais comme, ça l'inaugure pas bien. Vous, est-ce que vous aviez eu peur à ce moment-là?
Moi, j'étais sur le terrain pendant ça. J'allais le relever, mais il a dit, attends. Puis il avait déjà mal à la cheville, il s'avait déjà foulé la cheville. Fait que
il était fragile.
Ouais, je savais pas si c'était la même ou non. Okay. Mais je savais dans ma tête qu'il allait revenir.
Ah ouais.
Le connaissant. Comme c'est un dog littéralement. C'est son dernier match de la saison, c'est sûr.
Fait que t'as pas eu trop peur à ce niveau-là.
Puis j'ai vu que t'sais, c'était pas tant pire. C'était pas comme cassé. Là. C'était pas, pas la cheville de l'autre côté. Là. Fait que je me suis dit, ça doit être good.
Ouais, puis Baba en remplacement aussi a bien fait. Là, t'sais, ouais. C'est, bon, c'est pas le gars que tu lui demandes de faire le plus offensivement, mais t'sais.
Mais il est capable.
Capable. Puis il a joué quoi, à peu près 4 minutes ou peut-être un peu moins, mais je pense aucun revirement. T'sais, donner le ballon à Sidney. Pis...
Ouais, il a scoré un peu, je pense.
Ouais, il a scoré une fois ou deux.
Ouais, c'est un 2 Léa, une coupe de lancer franc, puis t'sais, non, il a vraiment bien joué.
Puis il est bon en défense aussi. T'sais, il est vraiment quick, puis explosif. Ouais. Ça nous aide vraiment beaucoup.
D'ailleurs, Baba a joué en Division 2. T'as joué en Division 2 aussi.
Ouais, puis Sidney.
Ouais, exact, qui était à Montmorency.
De la vraie.
Luc, la voix aussi qui est en studio derrière, joue en Division 2 aussi.
Je pense que le tiers de notre équipe vient de la Division 2.
Est-ce que c'est un peu une fierté que vous portez, justement, de, t'sais, il y en a peut-être qui n'ont pas cru en nous au début, mais là, on est là.
Ouais, ben, je suis content que ça, t'sais, que le D2 soit capable de performer au niveau universitaire, puis qu'on n'est pas comme la risée du D1. Mais ouais, je suis content.
Puis comment t'expliques ça qu'autant de joueurs D2 se rendent universitaire puis performent même rendu universitaire?
Oh, ça, je pourrais pas dire, mais c'est sûr que je pense l'éthique de travail des Division 2 est quand même vraiment bon. Je dis pas que le D1, ils l'ont pas, mais souvent, les gars de Division 2, ils veulent se rendre en Division 1, fait qu'ils travaillent vraiment fort pour se rendre. Fait qu'ils sont habitués de travailler fort tout le long de l'année.
Puis moi, je trouve, parce que je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je trouve que le basketball, c'est un des sports où est-ce qu'on peut se développer le plus tard comparativement à d'autres sports.
Je me suis développé vraiment tard.
Ouais.
Comme ma première année collégiale, je sais pas si vous l'avez entendu, mais je faisais 4 points par match.
Hein. Okay.
Puis après, c'était l'année COVID, je suis revenu, puis 20 points par match. Après.
Fait que passer d'un joueur qui fait 4 points par match au collégial à un joueur qui en fait
26.
Un joueur qui en fait 26 dans un match de finale canadien d'universitaire, c'est comme toute une progression.
Ouais, ça a été tardif, mais au moins, j'ai vraiment travaillé fort pour.
Puis justement, tu l'as dit un peu plus tôt, tu veux continuer de progresser.
Ouais.
Pour toi, c'est quoi la suite des choses? Est-ce que tu veux, tu penses terminer utiliser dans le fond tes 5 années d'éligibilité universitaire?
C'est sûr, j'aimerais ça finir mon bac.
Ouais.
Une cinquième année, ça va dépendre un peu aussi de l'académique, si je veux changer de programme ou non.
OK.
Mais c'est ça, c'est encore flou.
C'est quoi la...
Les opportunités aussi.
Mettons, on se projette, là. Je veux dire, t'as peut-être pas de réponse à ça, puis ce serait bien correct, mais... Dans 5-6 ans, là, tu te vois où? Tu te vois faire quoi? Tu te vois continuer à jouer au basket? Tu te vois être sur le marché du travail?
Ben, c'est mon but premier, surtout en arrivant ici, c'était de jouer professionnel en sortant.
Okay.
Fait que c'est vraiment un but que je tiens à accomplir, puis je vois que c'est possible.
Ouais.
Fait que c'est sur ça que je veux travailler.
Puis c'est quelle ligue, plus précisément? Y a-t-il une ligue, par exemple, que tu aimerais atteindre plus qu'une autre, par exemple en Europe?
Ouais, j'aimerais vraiment ça jouer en Europe. Euro League, là, j'aimerais vraiment ça.
Puis est-ce que le fait de jouer contre des joueurs, les meilleurs joueurs au Canada, est-ce que c'est sur ta confiance, sur la façon que tu joues, est-ce que de pouvoir jouer devant du monde comme ça, pas juste au Québec, mais de pouvoir jouer quand on a parlé de Diego Mafia, Malcolm Cousy, est-ce que pour ta confiance, pour les prochaines années, pour peut-être ta carrière professionnelle, est-ce que ça te dit ok, je peux le faire, je peux me rendre loin, ou t'étais déjà confiant à ce point-là d'être au meilleur niveau, au top du Canada? Là?
Non, moi au début, je te sentais avant la fin de semaine.
Ouais.
Moi, j'étais juste un gars d'arrêt ceux qui faisaient 10 points par match. Comme tu sais, j'avais joué, j'étais pas wow, j'ai pas été nominé dans rien à SEQ. Fait je me suis dit, gars, genre, on va continuer à travailler. Ça va être sur le long terme, mais là, c'est arrivé vraiment vite. Là. C'est 3 matchs, j'ai vraiment tout changé.
Puis, est-ce que, tu sais, là, je veux dire, c'est un peu hors basketball, mais comment t'as trouvé ça d'avoir toute l'attention? Je sais pas si tu t'attendais à ça, là, mais l'attention médiatique que t'as vu, mais pas juste médiatique, mais tu sais, à l'université, j'imagine, t'as vu peut-être l'engouement différent, mais tu sais, est-ce que justement, tu t'attendais à ça? Comment tu l'as vécu? Est-ce que t'aimais ça? Est-ce que c'était de quoi qui te faisait, je sais pas, capoter de voir ça à ce point-là? Ou...
Ben, pour moi, ça change pas tant. Moi, je suis encore comme comme le petit gars Saint-Jean. Puis, fait que ça m'a pas enflé la tête, ça m'a pas comme. Ouais. Tu sais, c'est merci, je suis reconnaissant, ouais. Mais let's get back to work. Genre.
Ouais,
c'est. Genre, ça m'a pas enflé, ça m'a pas rien fait de plus.
Puis est-ce que t'as aimé ça ou c'était difficile d'avoir autant d'attention? Comme t'as dit, comme que Victor l'a dit, t'as fait comme 2-3 entrevues dans la semaine suivante.
Ah, ben, mais c'est une bonne expérience à avoir, ouais. Je m'attendais vraiment pas à ça. Fait que c'était le fun de,
est-ce qu'on y
de
prend
découvrir.
Goût?
Ben ouais, tu sais, ouais. C'est cool. Non, c'est le fun, tu sais, découvrir des setups, comment voir comment. Ben, le lieu de Radio-Canada.
Ah ouais, oui.
C'est,
ah ouais.
Fun. C'est plus petit que je pensais.
Ah, ouais. Ah non, mais c'est comme tu le dis, l'expérience que tu peux aller chercher là-dedans, je veux dire, à n'importe quel moment, que ce soit plus tard dans ta carrière ou au niveau de tes aspirations professionnelles, n'importe où, tu sais, le fait de pouvoir voir ces setups-là, de pouvoir être, tu sais, je sais pas si c'est ça qui est arrivé, mais tu sais, une caméra devant toi, c'est comme c'est ouais, une autre
c'est
game.
Autre
là.
C'est autre chose, là. Ouais. C'est. Peu importe qu'est-ce que tu dis, ça va être
ouais, c'est... gravé. T'es tributaire de la caméra, tu dis bon, faut que je fasse la bonne
ouais,
chose,
ouais,
sinon.
Faut pas que je dise n'importe quoi.
Ouais, puis tu sais que tes parents, tes amis, tes proches là, sont devant la télé à te regarder. Là.
Ouais, ouais. Puis genre, il y en a vraiment beaucoup de monde qui se sont souvenus tout le ouais. long, qui ont regardé tous les matchs. C'était vraiment ouais. apprécié. Là.
Puis ton petit frère, si je me trompe pas, il était là fin de semaine
petit,
dernière.
Petit, ouais.
Petit, il est assez grand, là, j'ai vu. J'ai échangé quelques mots après le match de la finale du ouais. Puis je sais comment, il est grand.
Il a même grandeur que moi.
Ah ouais?
Sauf il a 17 ans.
Il a 17 ans. Puis selon toi, c'est quoi l'influence que tu as sur ton petit frère? Est-ce que tu agis un peu comme mentor pour lui?
Ben, tu sais, j'essaie d'y donner plus de conseils que. Puis plus de bagage que je peux lui donner. Mm-hmm. Puis le reste, ça va être un peu par lui. Comme travailler, vu que je suis un peu loin, je ne suis pas encadré non plus. Puis pour un joueur de basket, il faut vraiment que tu veuilles pour pouvoir performer. Il ne faut pas
absolument.
Que les autres veuillent pour toi.
Ouais, c'est bien dit.
Ah, c'est ça dans tous les sports. Là,
mais
ouais. Vas-y, Amélie, je t'ai coupé.
Mais un peu dans la même ordre d'idée, je pense que c'est sûr, je suis convaincu que tu influences ton frère, mais je suis convaincu aussi que la performance que vous avez eue en fin de semaine dernière va influencer beaucoup de jeunes Québécois, Québécoises qui jouent au basketball à faire OK, mais on peut performer en étant aussi au Québec. C'est quoi, selon toi, le leg que vous allez donner aux plus jeunes
basketballeurs? J'espère qu'ils vont voir que peu importe la division 2, ça veut rien dire. Ben, ça veut pas rien dire, mais comme. T'es capable de percer même si t'es dans des deux, même si t'es au Québec, même si tu développes vraiment tard, il n'y a jamais trop tard pour jouer au basket, puis se développer, puis se rendre au plus haut niveau.
Puis vous êtes la première école francophone à remporter le championnat canadien. Penses-tu que ça peut aider à réduire l'exode des talents qu'on a ici au Québec? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs joueurs qui s'en vont jouer ailleurs, dans d'autres provinces. Penses-tu que ça va aider à garder nos talents ici au Québec?
Je sais pas si ça va aider, peut-être. Peut-être que ça va favoriser ou que ce soit, mais il y a encore une équipe dans les nationaux d'habitude qui vient de RSQ. Tandis que les autres, c'est souvent deux.
Ouais.
Mm-hmm. Fait que, je sais pas encore. Sûrement ça va aider. Sûrement. Puis j'espère que ça va aider.
Mais tu sais, pourtant, le basketball au Québec est en santé. Là, on le voit, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes. Pourtant, universitaire dans RSQ, il y a cinq formations. Est-ce que tu penses que tu sais. Est-ce que tu penses que bientôt on pourrait voir une équipe à l'UDM ou à Sherbrooke ou même à l'UQTR?
Ouais, je pense que oui. Mais c'est sûr qu'il faut vraiment les infrastructures pour. C'est pas toutes les écoles qui ont comme un gym comme nous. Mais c'est vraiment rare. Là.
Ouais. Mais tu sais, tu vois McGill puis au Concordia puis.
c'est
tu fais avec ce que t'as, mais.
C'est différent comparé à nous. T'sais. Eux. Genre, il y en a qui sont très contents là-dedans, puis c'est vraiment bruyant à Concordia. Là. Fait que.
Ah ouais. Souvent dans les.
En demi-finale, j'imagine que c'était cette course.
Ah, j'entendais rien.
Ben, souvent les petits gyms, c'est ça. Là. Ouais. Victor, je sais pas si tu te rappelles. J'ai joué un match au secondaire, un match d'ouverture à ma dernière année. J'entendais même pas le ballon rebondir à terre.
Ouais.
Mais tu sais, notre gymnase au secondaire était pas gros, là. C'était pas le PEF, mais. C'est ça, souvent, on parle des grandes infrastructures, puis quand t'as comme 3200 personnes, comme en fin de semaine, ben là, ça fait toute une différence, mais des fois, les petites formations, les petits gyms, ils ont aussi cet avantage-là d'être tout petit.
Ouais.
Puis, tu sais, j'imagine que le fait, justement, ben, on en a parlé beaucoup, mais le fait d'avoir une équipe québécoise qui veut aller loin comme ça, puis de gagner, puis même, tu sais, on en parlait avec Luc, là, la semaine passée, mais c'est même l'UQAM qui va chercher la victoire en consolation, qui finit cinquième, tu sais, pour le Québec, puis pour tout ce qui est, pas juste les athlètes qui partent, mais pour la beauté du sport québécois, la beauté du basket québécois. C'est beau de voir des équipes réussir à ce point-là. Fait que, tu sais, c'est clair qu'une victoire comme ça peut juste aider, puis même s'il n'y a pas d'équipe qui vont à l'UDM l'année prochaine, le fait de gagner puis le fait de continuer à montrer que le Québec est pas le petit pousset du Canada, ça peut juste être bénéfique là. Puis Emily, j'ai l'air de vouloir continuer, mais vas-y.
Mais non, je suis d'accord avec toi. Petit, on a parlé beaucoup lors du dernier épisode, mais c'est ça, ça fait du bien au Québec de dire enfin on gagne, puis en plus on gagne chez nous, ce qui est assez extraordinaire.
J'imagine que vous avez un peu de contact avec les autres équipes du Québec. Est-ce qu'il y a du monde qui vous en ont parlé, qui ont trouvé ça fou de vous voir gagner, ou y a-t-il d'autres équipes au Québec qui vous en ont parlé, ou vous avez pas d'autres contacts?
Je sais que Concordia sont.
Ils sont pas contents.
Non, mais ils sont pas contents, mais ils nous ont battu 5 fois. Ah,
ouais, ça peut faire un pincement au cœur.
Mais sinon, j'ai pas entendu de mauvais commentaires ou quoi que ce soit.
Et Lucam, t'en as parlé, c'est 2 5e places au championnat canadien de suite. Ouais. Tu sais, c'est 2 défaites seulement sur 6 matchs contre les autres formations du Canada. Nous, en plus, c'est une victoire ici à Laval, donc des bonnes performances au Québec. Puis tantôt, on parlait des rangs professionnels. Je me demandais si une équipe comme l'Alliance de Montréal, qui vient de terminer sa deuxième saison, ça peut-tu inspirer les joueurs à aspirer au rang professionnel, les joueurs universitaires canadiens?
Oui, c'est sûr. Puis je pense qu'ils vont en avoir.
Ouais. C'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser?
Ouais, j'ai vraiment.
Ouais,
en tout cas, on va voir la suite.
Ouais.
Puis, tu sais, c'est ta deuxième année. Tu réussis justement à faire ce genre de réussite-là. Est-ce que le fait de gagner comme ça, côté recrutement, pour les prochaines années à Laval, est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact sur ce qui va être recruté? Puis, tu sais, on a parlé beaucoup de Division 2, mais pas nécessairement sur les athlètes qui vont venir, mais sur l'attrait que Laval va avoir. Est-ce que tu vois justement une espèce d'attrait de dans tes contacts, peu importe, par rapport à ce que les gens disent de Laval maintenant que vous avez gagné, ou il n'y a pas trop d'impact pour l'instant?
Bien, c'est sûr, même avant, ils trouvent que les infrastructures sont incroyables, mais c'est sûr qu'ils vont vraiment avoir envie parce que de venir, parce que on a gagné, on a la même équipe, littéralement presque, à part peut-être 2 joueurs qui parlent, puis les mêmes coachs. Fait, je pense qu'on a quand même une recette gagnante pour gagner l'année prochaine.
Ah ouais.
Puis un autre avantage, je pense, c'est aussi l'Université Laval. Il y a beaucoup de programmes qui sont offerts. Tu sais, par exemple, kinésiologie, je ne suis pas certain que ça se note dans toutes les autres universités du circuit. Pense,
ouais. Non. Mais au début, je voulais aller en physio.
OK.
Puis ça ne se donne pas dans tous les programmes.
Puis est-ce que ça a eu justement un impact sur l'université que tu as choisi?
Ouais. Parce que Bishop, il n'y avait pas mon programme.
OK.
Concordia, ça ressemblait, mais ce n'était pas tout à fait ça. Puis je pense UQAM aussi, mais je n'étais pas sûr.
Puis à quel niveau, justement, le choix du programme a joué dans ta décision?
Beaucoup, parce que
beaucoup?
En même temps, je joue au basket, il faut que j'ai un diplôme. Puis je veux avoir un diplôme dans qu'est-ce que je veux aller. C'est important pour moi, les études. Ça a toujours été important.
On parlait des infrastructures aussi. Tout au long de la fin de semaine, les autres équipes du Rouge et Or, on vous ont appuyé. Est-ce que c'était un sport que vous ressentiez pendant les matchs, ou vous étiez trop concentré?
Moi, j'ai entendu, là, surtout les gars de soccer, qu'en sortant du gym, ils nous criaient, ils nous encourageaient, les gars de foot et tout. Fait,
il y avait même les anciens aussi qui étaient en dessous du panier.
C'était incroyable.
Il y avait les anciens là, avec quoi, des tambours.
Mais pour l'histoire, c'est ça. C'est après la victoire à Victo, contre Victo, les anciens ont commencé à faire, tu sais, là, faut trouver une façon de faire du bruit, puis tu sais, ils ont trouvé une façon d'acheter des drums, puis des affaires de même, puis là, j'étais comme, wow, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Moi, tu sais, tu vois ça, puis tu sais, ça, j'imagine que c'était ça pour toi, puis ça se passe de même la fin de semaine, là, en un claquement de doigts, tout est fini, puis je disais, t'es champion, fait que, tu sais, tout ce qui se passait le samedi, elle disait, hey, faut acheter telle affaire, on va acheter, tu sais, il y avait même, je pense qu'ils ont acheté des espèces de orgues, là,
ouais,
puis finalement, on pouvait pas les utiliser dans le gym parce que c'était comme illégal, fait qu'on n'a pas pu les prendre, mais en tout cas, je me rappelle pas exactement c'était quoi la règle, mais il me semble qu'il y avait une règle comme ça qui faisait qu'on pouvait pas. Mais tu sais, tout ce qui était possible d'acheter pour faire du bruit, je pense qu'on l'a fait.
Des pancartes de la tête des joueurs.
Mais il y en avait une sur toi, je sais pas si tu l'as vu, là.
Sur le côté, sur le
salon. Ouais, sur je sais pas, c'était quoi, genre le 11 va dunk dessus, je sais pas.
Ouais,
même, tu sais, il y en avait quelques-unes sur Queens et tout, tu sais, c'était fou, tu sais.
The Queen is dead, là.
Ouais, exact. Puis tu sais, je me sentais, puis j'imagine, t'as déjà vu ça, mais tu sais, au foot, c'est un peu la mentalité qu'il y a, que genre, tu sais, c'est un peu plus étudiant et tout. Fait que de voir justement ces gens-là venir au match, j'imagine que pour vous, d'avoir des amis, des collègues, d'autres équipes de Laval qui sont là, même les filles, je veux dire, en Alberta, qui gardaient le match après leur game aussi, qui étaient là pour vous soutenir. J'imagine que vous avez senti ce sport-là tout le long de la fin de semaine.
Oui, tout le long. Puis, en plus, la première journée, les tambours. Si on pouvait avoir ça chaque match, je serais content.
Justement, c'est ça, on en parlait ensemble, on en a jamais parlé en onde, mais depuis plusieurs semaines, on discute de l'idée de, pendant les matchs, tout au long de la saison, d'avoir une section étudiante, soit en arrière d'un des deux paniers. Ou qu'est-ce que tu penserais de ça, d'avoir une section réservée pour les étudiants?
Là? Parce que c'est souvent des familles qui viennent. C'est pas nécessairement eux qui vont comme crier ou ils vont encourager ou trash talk l'autre équipe. Mais ça serait incroyable. Surtout une gang d'étudiants ensemble, ça fait du bien.
Puis on le voit aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Tu parlais des tambours.
Puis même ici à Laval, là, les matchs de football, la section étudiante est remplie à chaque match. Je pense que ça fait la différence. Puis je suis convaincu qu'on pourrait créer le même genre de phénomène pour les matchs de basketball, de volleyball, par exemple, tout au long de la saison, ça serait exceptionnel.
Oui, puis tu sais, on en a parlé, mais tu sais, l'Université Laval a quand même un bon bassin d'étudiants Fait que tu sais, d'avoir des étudiants qui sont là, puis juste d'avoir du bruit, puis tu sais, tu l'as vu, si tu as vu des vidéos de ça, mais tu sais, de voir le monde qui sont toujours debout, qui crient contre l'autre équipe. Tu sais, je veux dire, on en a parlé, puis j'imagine que vous l'avez vu, mais tu sais, tous les lanciers francs qui ont été manqués par les autres équipes, c'est fou, là. Je veux dire, l'avantage du terrain.
5 à 11 ou
ouais, ça, le dernier match, je pensais ça. C'est Coleman.
Même aux 3 points, je pense qu'il était à 18%.
Ouais, Coleman, ouais.
C'est... Même 13, je pense.
Fait que tu sais, j'imagine que cet impact-là est là, puis de pouvoir avoir des étudiants qui sont là à l'année longue.
Même
que...
Pour nous, les étudiants qui sont partisans, là, moi, j'ai tellement eu de fun en fin de semaine dernière. Là, genre, j'ai tellement de fun, je me dis, j'aimerais ça, vivre ça pratiquement chaque semaine, chaque jeudi ou vendredi, tu sais, lors des matchs, d'y aller avec mes potes, on va crier, on va se faire du fun. Puis moi, personnellement, j'ai pratiquement perdu la voix. Je sais pas vous autres, comme joueurs, si t'as perdu la voix.
À monter,
ça, mais ça reste que c'est tellement plaisant que je pense que ça serait une formule gagnante, puis ça crée une sorte de cohésion encore plus autour du mouvement Rouge et Or qui transcendait seulement le football.
Ça, je suis d'accord.
Moi, je sais pas si tu le senti de la même façon, mais moi, j'ai trouvé que la foule, tu sais, oui, on en a parlé, ça avait un impact, mais au début des matchs, c'était tel que tel, mais c'était surtout à la fin là, tu sais,
c'était chaud.
Exact, les équipes manquaient des lancers francs. Je sais pas si tu t'en rappelles, Mané, t'as fait un bloc sur dans le corner à droite, mettons de
contre Dalhousie.
Ouais, exact. Tu sais, là vous étiez un peu en train de pas de perdre le contrôle, mais Dalhousie était sur une run. Il y avait du momentum, il rentrait
3 points de suite.
Exact. Et t'es allé bloquer là soit Christie ou le numéro 4.
L'ancienne du Québec en plus.
OK.
Il joue à Jalaba.
Ah oui. Mais le momentum a changé drastiquement à ce moment-là. La foule a tellement réagi, j'étais debout. Est-ce que, tu sais, j'imagine que vous l'avez senti aussi dans ces moments-là, le momentum qui shiftait grâce à la foule.
Ouais, on se sentait. Sur chaque bonne action, on avait comme 2, 3, 4 personnes qui étaient en train d'avoir l'énergie de plus, qui étaient enragées.
Puis, tu sais, je veux dire, en parlant de du dernier match, là, ça me revient. Tu sais, le match est par 1, je pense. Ouais. C'est toi qui mets le 2 points pour prendre l'avance, je pense.
Après, c'est Steve,
ça. Mais tu sais, à ce moment-là, il y a un dunk qui est fait par Queens qui prend les devants. Tu sais, est-ce qu'il y a de quoi qui change? Dans le sens que, je pense, je sais pas c'est qui lance à ce moment-là, là, mais c'est raté, c'est toi qui prends le rebond.
Je pense que c'est Steve qui a lancé.
Ouais, ça. Mais toi, le tir que tu fais à ce moment-là, tu sais très bien que ça a un impact sur le match, là, dans le sens que si tu l'as pas.
Non, moi, j'ai blackout.
T'as blackout? Tu te rappelles derrière?
On était en pilote automatique, là. J'ai vu le ballon en l'air, je me dis, je prends le ballon, puis au pire, je vais la scorer après, mais je pensais même pas que j'allais la scorer. Ça restait tout seul. J'ai marché, j'ai fait un travel.
Mais à ce moment-là, tu sais, c'est ça, c'est quand tu dis que t'as blackout, c'est clair, là, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui existe. Là,
les 3 points, je me souviens même pas que j'avais fait des
3
points.
Ah ouais?
Non, mais à part 1.
T'es quoi? T'es 3 en 5, je pense, dans ce match-là? Ouais, c'est.
Et celui que j'ai manqué, je m'en souviens.
La mémoire d'athlète, là.
Je pensais que j'en avais rentré 1, 2 même, mais je savais même pas que j'avais rentré 3.
Ouais, puis les 3 que t'as rentré étaient quand même importants. Il y en a 2, une fois qu'il y en a 2, là, à un moment que l'équipe perdait, là, tu sais, c'est. Mais tu sais, quand on parlait justement d'à quel point. Le fait d'être clutch dans des moments importants, c'était ça, là, dans le sens que les 3 points que tu mets, les blocs que tu fais aussi.
Ça s'est fait tout seul.
Ouais, non, mais je disais, en pilote automatique, ça a l'air que ça marche, là. Ouais.
Non, puis pour l'anecdote aussi, lors du dernier match, on regardait le match ensemble et on s'est fait dire qu'on était trop debout par des personnes derrière nous. Mais au même moment, pendant que Luc, qui est derrière le studio encore, essayait de s'obstiner un peu avec les gens derrière, au même moment, tu l'as peut-être pas vu, Harris s'est fait changer. Puis en passant, juste avant de passer pour donner la main au gars, a demandé à la foule de se lever. On a embarqué là-dedans, puis on s'est jamais vraiment rassis, finalement.
Mais l'énergie de la foule, c'était fou,
ça,
là.
Honnêtement, ça donne vraiment un gros avantage à avoir la foule à la maison.
Ah ouais. Parce que, je le dis, puis je pense que l'avantage de gagner comme ça, c'est que ça va galvaniser plein de monde à revenir l'année prochaine, puis ça peut juste être bon pour les matchs de l'année prochaine, puis de vous donner encore plus de jus pour ces matchs-là. Là, tu sais, c'est clair que de voir justement avoir autant de spectateurs qui sont là, puis tu sais, pour l'anecdote encore là, tu sais, les billets, je pense que... c'était sold out, puis pour l'anecdote, pour l'avoir vu, là, tu sais, je veux dire, il y avait plus de billets dispo le soir même, là, le samedi soir, c'est juste que il y a des billets qui se sont débloqués parce que il y avait des billets qui étaient bloqués pour X raison, mais il y a des billets qui se sont débloqués, mais l'engouement qu'il y a eu, c'était complètement débile, là. Je veux dire, j'ai pas vu ça beaucoup à part au foot, là, c'était complètement surréel.
Vraiment, puis justement, moi, après la demi-finale, j'ai voulu acheter mon billet tout de suite après, puis ça avait pris tellement de temps dans le fil d'attente sur le site avant d'avoir accès. Hey, je stressais, là. J'étais comme, oh non, je veux pas manquer le match. Finalement, j'étais correct pour avoir mon billet, là, mais je pense que le site, il était très, très chargé, là. Ça aurait pu bugger. Ouais,
c'est rare qu'il est chargé de même, là, je t'ai dit.
Ouais.
En terminant, Ismaël, est-ce que ce championnat-là historique-là, ça t'a donné un peu envie de regarder le March Madness qui s'en vient aux États-Unis?
Ouais, c'est sûr. C'est un peu une petite March Madness d'équipe du Canada. Ouais, ouais. Mais ouais, ça me donne un peu plus plus de temps aussi.
Là, tu m'as inspiré, là. Je vais prendre tous les underdogs.
C'est ce que je disais aux gars, là. Je vous m'avez peut-être inspiré. Je pense que dans mon bracket, je vais mettre le Final Four, les 4-16e.
Ouais.
Tu me conseilles-tu de faire ça?
100%.
Écoute, Ismaël Diouf, merci d'être venu avec nous.
Ça a été
super intéressant. On va faire une petite pause, écouter Contes Antisportives sur les ondes de Chiz 94.3.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Bonjour, ici Boris Chassagne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens, sociétés, arts, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Tous les vendredis à 13h30 sur Chiz 94.3 FM.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les samedis de 8h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3 avec Augustin Becci.
L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussions, analyses, invités, interviews et défis de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Chiz 94.3 avec Cédric.
Et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
Étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle de l'Université Laval, voulez-vous vous impliquer à l'Allier? Sachez que c'est le moment opportun. Envoyez rapidement un message à l'adresse courriel suivante, communication avec S, à commercial, allier.ulaval.ca. Venez vite! L'Allier, votre allié pour toujours.
Rebienvenue sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutez Conduite Antisportive. On vient de recevoir Ismaël Diouf en entrevue. On va essayer de rendre les liens de l'émission disponibles sur le site et en tout cas, sur le nuage. Victor va s'occuper de ça.
Sur le nuage.
Dans le nuage, plutôt. En deuxième partie d'émission, on va revenir aussi sur le championnat canadien en athlétisme. On a eu des super bons résultats, pas la fin de semaine qui vient de se passer, l'autre d'avant. Et le Rouge et Or volleyball masculin était à Kingston, en Ontario, pour le championnat canadien aussi. Ouais. Emery, ça a bien été en athlétisme.
Absolument. Alors, tu le dis, du 7 au 9 mars dernier, alors en même temps que le championnat de basket universitaire. Alors, c'est passé un peu dans l'ombre, peut-être pour certains, en raison de l'engouement qu'il y avait pour le basketball ici à Québec.
Je vois pas ce que tu parles.
Ce qu'on voit donc, on voit pas. Mais quand même, on avait notre équipe d'athlétisme du Rouge et Or qui était du côté de Winnipeg pour le championnat canadien. Alors, belle performance quand même pour le Rouge et Or. Chez l'équipe masculine, on a terminé en troisième position.
Ben, tu sais, là-dessus, justement, belle performance. En plus de ça, c'est la meilleure performance depuis 2018 de l'équipe masculine de finir troisième comme ça. Guelph, c'est une des plus grosses universités en athlétisme depuis longtemps. Mm-hmm. De finir troisième comme ça, c'est exceptionnel. Là, on a vu des performances incroyables. Puis je te laisse continuer là-dessus, mais tu sais, c'est vraiment une belle performance de cette équipe masculine là. Puis même les filles finissent quatrième, je pense.
Cinquième, ouais, exactement. Ça. L'équipe féminine termine au cinquième rang. Je sais pas historiquement.
Historiquement, l'équipe a fini troisième dans les dernières années. J'avais tendance à dire 2021 ou 2022, mais c'est une belle performance encore une fois, tu sais, je veux dire, tu en parleras encore une fois des personnes, une performance individuelle, mais il y a des athlètes là-dedans qu'on va suivre encore longtemps. Là.
Absolument, mais allons-y pour les performances individuelles. Alors, on va commencer avec nul autre que Jean-Simon Desgagné, qui vient de terminer sa carrière universitaire, et ce, en beauté. Au 3000 mètres, Desgagné a terminé en première position avec un temps de 7 minutes 59 72. Ça, c'est près de 2 secondes de plus rapide que la personne qui a terminé en deuxième position. Et puis, rappelons-le, là, son record personnel sur cette distance-là.
Est-ce que t'as dit 2 secondes,
excuse-moi.
Là, je pense.
2 secondes, quand même. Mais son record...
Ça reste quand même beaucoup en athlétisme.
Oui, ben, quand même. Pour vrai, quand même. Mais tu sais, justement, ça reste que son record personnel sur une pareille distance, c'est de 7 minutes 47 39. Ouais. Alors ça, c'est 12 secondes de différence. Alors, il était 12 secondes moins rapide que son record qu'il avait fait un peu plus tôt cette année, ce côté de Boston. Mais ça montre justement que, tu sais, quand il était à Boston, il était entouré avec des plus grands talents, je dirais, ce qui l'a poussé à être plus rapide.
Exact. Puis c'est pas juste, c'est ça. Puis c'est aussi le fait que les pistes d'athlétisme, là, je connais pas la piste à Boston, mais je connais pas la piste où est-ce qu'ils étaient à Winnipeg, mais tu sais, le fait d'être sur des pistes différentes, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile parce que ça change ta façon de courir. Puis, au sprint, ça a un peu moins d'impact là, parce que c'est une petite distance, mais sur une longue distance, les pistes, les façons, tout ce qui est condition de la piste, là, ça peut vraiment faire une différence sur la vitesse de la piste, sur la vitesse des coureurs. Fait que le fait d'être 12 secondes moins vite, c'est peut-être attribuable à ça.
Puis surtout en intérieur, là, parce que souvent les pistes sont 200 mètres du côté de Winnipeg, je le sais pas, j'imagine que c'était 200 mètres aussi, mais tu sais, comme Victor, tu viens de le dire, des fois, il y a des pistes que sur les côtés, il y a un angle dans la courbe, alors que comme ici, du côté du PEPS, il n'y en a pas, ce qui est des fois un peu moins l'idéal, mais ça peut effectivement avoir un impact sur la vitesse. Ensuite, au 1500 mètres, Jean-Simon Desgagné a monté sur la deuxième plus haute marche du podium avec un chronomètre de 3 minutes 44 et 76. C'est Max Davies de l'Université de Guelph qui a terminé en première position avec un temps de 3 minutes 44.
Qui fait, je pense, un record du U Sports, ou en tout cas, c'est un temps vraiment... En tout cas, je pourrais aller chercher, mais il me semble que c'est ça. Là, si c'est pas un record du U Sports, c'est très, très près du record du U Sports. Donc, c'est un temps phénoménal.
Oui, absolument. Vraiment... belle parenthèse. Et ensuite, toujours du côté des athlètes masculins, on a Abdellah Hassar qui a, au lancer du marteau, qui a terminé en première position. Et quand même toute une performance parce que battu le record québécois avec un lancer de 21 mètres 22. Alors, toute une performance du côté de l'athlète du Rouge et Or.
Saison exceptionnelle. Lui qui battait son record quasiment à chaque semaine, conclut ça de la plus belle des manières.
Ça doit être comme la 3e ou 4e fois qu'il se match cette saison, qui bat son record. Après, il rebat son record. C'est vraiment assez exceptionnel, là. C'est rare qu'on voit ça.
Ben, tu sais, il a battu son record. Je pense que ça, c'est 2 ou 3 premières compétitions. Il battait tout le temps son record. Aux provinciaux, il l'a pas battu. puis finalement au Canadien il rebat. Donc tu sais, c'est la performance qu'il fait, c'est débile, c'est complètement fou.
J'ai hâte de le voir en action l'année prochaine. Est-ce qu'il va continuer comme ça à battre ses records comme qu'il fait?
Il y a des limites aux capacités humaines.
Absolument, t'atteins un plateau, là, c'est inévitable, mais quand est-ce qu'il va l'atteindre?
À suivre, exact.
Normalement, il y a encore des années devant lui, là, où est-ce qu'il peut revenir. C'est un athlète qui est quand même plus âgé. Là. C'est un nouveau à Laval, mais il avait déjà allé ailleurs là, pour faire de l'athlétisme. Donc, je pense qu'il lui reste des années. Là, comme on en parle beaucoup, mais c'est pas sûr que ce prend toutes tes années. Ismaël en parlait un peu, il aimerait peut-être ça se rendre à sa cinquième, mais il va voir côté académique ce que ça donne. Donc, à voir si jamais il revient. Normalement, il devrait revenir l'année prochaine. Est-ce que ça va être le cas pour les 2-3 prochaines années? On verra.
Tu l'as parlé, il y a les études, mais aussi en athlétisme, c'est dur de gagner sa vie avec l'athlétisme. Alors, il y a peut-être aussi les enjeux de rentrer sur le marché professionnel qui peuvent aussi entrer en ligne de compte. Là, on le sait pas.
Je suis allé voir justement au 1500 mètres. Le record, c'était 3,46. 85. Okay. Donc, bol record, Max Davies par 2 secondes, là, si je m'en rappelle.
Mais Jean-Simon, en fait, Jean-Simon Desgagnés et Max Davies ont battu le record avec cette performance.
C'est ce que je comprends. Avec toute réserve, c'est ce que je pense qui serait le cas.
Mais c'est ce que j'avais su comprendre tout à l'heure, puis j'en jasais avec Charles avant de.
On regardait les statistiques, mais.
Mais Jean-Simon Desgagnés avait déjà fait aussi une meilleure performance, mais c'était peut-être pas dans un circuit universitaire. C'était l'information que j'avais de la misère à valider.
En fait, je pense que le record qui a été battu, c'est le record U Sports. Mais tu sais, en athlétisme, il y a tellement de records. Il y a un record du Québec, il y a un record du Rouge et Or, il y a un record. Tu sais, ça dépend vraiment de. Je pense que sur le circuit U Sports, c'est le meilleur temps qui a été fait. Mais c'est pas, je pense pas que c'est le record canadien et tout, mais je pourrais aller encore le vérifier. Mais avec toute réserve, ça serait probablement un record qui aurait été fait par Max Davies et par Jean-Simon du même coup.
Exactement. Et encore du côté des hommes pour le Rouge et Or, au lancer du poids, on a Mathieu Doré qui a terminé en première position avec un lancer de 11,35 m. Alors, quand même, 3 premières places du côté des hommes. Belle performance. Ouais. Ensuite, chez les femmes, quand même plusieurs performances individuelles, plusieurs personnes qui sont illustrées. Commençons avec Audrey Leduc au 60 mètres qui est terminée en première position. Elle a réalisé un chronomètre de 7 secondes 26. Et puis de 7 secondes 21 lors des qualificatifs. Alors, elle était plus rapide lors de la phase de qualification que lors de la grande finale, mais a quand même réussi dans les deux cas à s'emparer de la première place. Ensuite, on a Emma Desgagnés qui a terminé 3e au 600 mètres avec un chronomètre de 1 minute 29,45. On a Catherine Beauchemin qui a terminé 1e au 3000 mètres avec un temps de 9 minutes 36,08. Et ensuite, pour les performances d'équipe, on a terminé 2 fois en 2e position, au 4 fois 200 mètres ainsi qu'au 4 fois 800 mètres relais. Dans les deux cas.
Quand même une pas pire fin de semaine.
Alors, une belle performance côté du Rouge-Or. On est allé chercher plusieurs médailles. Ouais. Puis je pense que l'équipe de l'athlétisme a de quoi être satisfait de leur fin de semaine.
Ouais, puis c'est une page qui se tourne en quelque sorte parce que t'as des gars comme Jean-Simon Desgagnés, t'as des filles comme Catherine Beauchemin qui seront pas de retour l'année prochaine. Non. Donc, c'est une page de l'histoire de l'athlétisme du Rouge-Or qui se tourne. On verra qui prendra la place, comment l'équipe. Quelle sera l'équipe l'année prochaine, quel sera le niveau de l'équipe. Mm-hmm. Mais c'est vraiment des belles performances. C'est une année, c'est une carrière qui se termine bien pour ces deux athlètes-là qui vont chercher des...
universitaire, parce que rappelons-le, Jean-Simon Desgagnés...
Un espoir olympique.
Est un espoir olympique pour cet été à Paris 2024. Exact. Lui qui fait le 3000 mètres steeple. Ouais. Moi, j'ai très hâte de voir s'il va réussir à se qualifier. On se croise les doigts, puis j'aimerais vraiment ça pouvoir le suivre cet été. Là.
Ça serait incroyable. Puis Charles-Philbert Thibodeau l'avait déjà fait à Laval de réussir à faire les Jeux olympiques. Mais pour Jean-Simon, de pouvoir le faire encore une fois, ce serait un autre accomplissement que Laval pourrait mettre dans son livre des accomplissements. Là. Vraiment une belle, une très, très, très belle façon de faire là, pour le Rouge-Or, d'avoir des athlètes comme ça qui réussissent à se qualifier pour des Olympiques. Mm-hmm. Tu sais, Jean-Simon, sans dire que si ce serait... incroyable qu'il réussisse, mais il est encore jeune. Si jamais c'est pas cette année, pourrait encore possiblement être en forme dans 4 ans pour le refaire. Donc, c'est une belle fenêtre qui s'ouvre, en fait, là, pour autant pour cette année que pour les prochaines années, pour le prochain cycle olympique. Donc, c'est une carrière universitaire qui se termine, mais il y a une deuxième carrière qui est encore peut-être même plus belle pour lui qui s'en vient dans les prochaines
années. Absolument, je suis absolument d'accord avec toi. Puis, on le voit, Jean-Simon Desgagnés est beaucoup actif sur les réseaux sociaux. On le sait, il est commandité notamment par New Balance. Ouais. Alors, il y a quand même un certain support financier. Je sais pas à quel point ça l'aide, mais clairement que ça peut faire une différence parce que, comme j'ai dit plus tôt, c'est difficile en athlétisme de pouvoir vraiment se dédier à fond seulement dans ce sport-là. Souvent, les athlètes qui ont besoin de travailler à côté. Alors, bref, dans tous les cas, je souhaite le meilleur des succès pour la suite.
Ouais, au-delà des Olympiques, c'est une belle conclusion pour certains athlètes. Et pour d'autres, ben, c'est une autre marche de gravier pour la saison prochaine. Puis, tu sais, le Rouge et Or continue... Peut-être pas sa domination canadienne, mais quand même ses bons résultats. Là, on a un bel historique au Canada, au Rouge et Or, en athlétisme. Donc, la saison prochaine, on va continuer de suivre ça. Du côté du volleyball, les hommes ont fini sixième au championnat canadien. Un parcours rempli d'embûches. On avait une bonne formation, équipe on était invité au championnat canadien. On était classé septième à l'amorce du tournoi. Finalement, on finit sixième. Mais premier match, on perd contre l'Université d'Alberta 3-1 sans Nicolas Fortin, qui est peut-être le meilleur joueur, ou en tout cas, à tout de moins, un des meilleurs joueurs de l'équipe. Lui qui avait une gastro, je pense que ça l'a fait de mal. En plus, l'Alberta remporte le tournoi. Si on regarde le résultat 3-1, on peut se dire que c'est pas nécessairement un match serré. Mais Laval remporte la première manche, fait une remontée pour remporter la première manche. La deuxième manche est serrée aussi, ça s'est joué de peu. Bon, ensuite, les centres de l'Alberta... ont pris contrôle du match, mais avec le remplaçant, le Terrell Chouassi du Rouge et Or, un joueur de première année, a bien fait. Là, vraiment, la défaite mm-hmm. n'est pas de sa faute, mais quand un joueur de la trempe de Nicolas Fortin qui est absent,
c'est
ça paraît...
C'est tellement dommage pour lui. C'est tellement dommage. Après toutes les performances qu'il y a eu au cours de la saison...
Joueur de dernière année en plus.
De dernière année en plus, de s'absenter, là où ça compte, ça doit tellement faire mal. Et ça, pour un bite virus, une gastro... Tu peux rien faire contre ça, là. Tu peux pas jouer quand t'as ça, c'est...
Je sais pas, j'ose même pas imaginer comment il se sent, là.
Ouais, ça va être terrible.
D'arriver à ta dernière année comme ça, un match tellement important, tu sais, on en parlait, puis l'Alberta finit par gagner ce tournoi-là. Peut-être que si Laval réussit à gagner ce match-là, peut-être que c'est eux qui sont contre Sherbrooke.
C'est
là.
Ça, c'est des hypothèses, des si, mais ouais. J'ai regardé le match et vraiment, j'ai pas trouvé que le Rouge et Or était déclassé malgré qu'il nous manquait un de nos meilleurs joueurs. Bon, Nicolas Fortin est revenu au deuxième match, donc une victoire de 3-0 contre McMaster en demi-finale de consolation. Peut-être que l'équipe a été galvanisée là, par le retour de Fortin. McMaster était classé deuxième ou troisième dans le tournoi. Troisième dans le tournoi.
Ouais.
Donc, tu sais, une victoire convaincante là, sans trop de difficultés contre une des puissances au Canada. Finalement, le Rouge et Or s'incline 3-1 contre les Spartans de Trinity Western pour le match de cinquième place, donc finit sixième du tournoi. Je sais pas, peut-être que la fatigue s'est fait sentir, peut-être que Nicolas a eu la gastro, mais peut-être que d'autres joueurs n'étaient pas à 100% aussi, ou peut-être que finalement Trinity Western était juste meilleur, on sait pas, mais il y avait un résultat à avoir. C'est un peu dommage parce que c'est quand même une sixième au Canada, c'est rien en, c'est exceptionnel là.
Faut pas en être gêné.
Non, exact, c'est vraiment pas gênant, mais il y avait peut-être moyen d'aller chercher plus, mais bon, je pense que dans les prochaines années, là, les joueurs vont pouvoir regarder leur parcours avec fierté.
Oui, clairement.
Du côté de Sherbrooke, par contre, on va faire une petite parenthèse. Là, on partage quand même la couleur or avec le vert et or.
S'il y a bien une chose qu'on partage, c'est juste
ouais, la langue française et nous autres québécoises, mais ah, ouais, non, exact.
En tout cas, c'est un débat. La semaine prochaine, débat sur les ressemblances et les différences entre le rouge et or et le vert et or. Mais l'équipe du vert et or n'avait pas perdu de la saison invaincue. Se sont finalement inclinés contre l'Alberta en demi-finale, finale canadienne. Défaite crève-cœur. Surtout que, pour revenir au match que l'Alberta joue contre le Rouge et Or, j'ai rarement vu une équipe de volleyball mettre autant de services dans le filet. Peut-être qu'ils ont corrigé, j'ai pas regardé leur match après, là, peut-être qu'ils ont corrigé cet aspect-là, mais je pensais vraiment que c'était à la portée du vert et or. Finalement, s'inclinent. C'est leur troisième finale nationale qu'ils perdent de suite. Mais bon, l'avenir est quand même beau du côté de Sherbrooke parce que malgré les années dominantes qu'ils viennent de connaître, ils perdent aucun joueur de leur formation. Donc, ça risque d'être une équipe à suivre encore longtemps. Là.
C'est prometteur quand même.
Exact. Ouais, exact. Du côté du Rouge et Or, par contre, le 4 finissant, Nicolas Fortin, on en a parlé. Jonathan Girard aussi, le joueur de centre. Mm. Ça, c'était deux joueurs qui ont été mentionnés sur l'équipe de deuxième équipe d'étoiles au Canada. Le libéro aussi, William Bergeron, a joué son dernier match avec le Rouge et Or. Et Alexandre Parent, qui avait fait un retour. Il était sur le marché du travail, avait décidé de revenir aux études pour jouer au volleyball. Il a joué, je crois, deux saisons.
Oui, je pensais ça, oui.
Mais finalement, il a joué ses derniers matchs avec le Rouge et Or. Donc, c'est ce qui conclut une belle saison de volleyball ici à Québec. Les gars, pour finir l'émission, j'ai une petite question vite fait pour vous. Est-ce que vous vous sentiez petit en studio aujourd'hui avec Ismaël Diouf?
Ben moi, je me sens petit au quotidien. Je suis pas particulièrement grand, mais c'est sûr que...
Accompagné d'un joueur de quoi 6 pieds 8,
ce sentiment-là a été encore plus...
Mais tu sais, on a vraiment été gentil. Non, mais on a bien fait ça. On l'a mis sur la plus petite chaise pour que ça ait l'air encore moins pire dans le studio. Mais c'est vrai qu'en arrivant, c'est pas... Tu sais, je veux dire, il est un peu plus grand, là. Pas beaucoup, là, juste un peu. Ouais. Non, mais pour vrai, c'était une belle expérience pour pour lui. Puis on en parlait, mais c'est une belle vitrine pour le basketball québécois d'avoir ce genre de joueur-là qui est capable de parler dans des entrevues assez facilement, qui a une expérience médiatique qui est intéressante, qui s'entend bien un peu avec les médias. C'est une des figures peut-être du Rougea là dans le futur, là, d'avoir un joueur comme ça. On a beaucoup parlé au foot de Kevin Mittal, de joueurs comme ça qui étaient très
Hugo Richard,
exact, Arnaud Desjardins maintenant. C'est des joueurs qui sont comme la figure du Rougea, mais tu sais, si le Rougea était pour avoir encore du succès l'année prochaine, dans 2 ans, ben tu sais, peut-être qu'Ismaël Diouf va devenir cette espèce de visage là ou un de ces visages là de l'équipe. On verra ce que ça donnera dans les prochaines années, mais vraiment là un futur qui est beau pour lui, mais aussi pour l'équipe.
Ouais, certainement le potentiel d'être une tête d'affiche. Là, personnellement, les deux derniers matchs en fait qu'il a disputé là, dans le championnat canadien, j'ai rarement vu quelqu'un être autant dominant au niveau universitaire.
Tous les, autant défensivement, autant offensivement.
Oui, exact.
Partout sur le terrain, c'est assez incroyable.
J'espère que vous en ondes, vous avez apprécié autant que nous sa venue à l'émission. Et pour la suite des choses, c'était notre première entrevue, mais on souhaite en ajouter. Donc, soyez des nôtres.
Il y en aura d'autres.
Il y en a d'autres. Confirmé ici à Conduite Antisportive. Soyez des nôtres les lundis de 15h30 à 16h30.